Dan Mag, T comme Titane.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titane.
Et Dan.
Le Titane Mag, avec la complicité de l'ami éclairé.
Dominique.
Avec nous au micro et de l'ami fidèle.
Laurent.
À la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent. En ce début d'un été prometteur fait de créativité, de hasard et de festivité, le Titane Mag a poussé les grandes portes d'un atelier de création à Tigneux pour savoir ce qui s'y passait. Ce jour-là, il y avait une journée autour du livre. On y trouvait des auteurs, illustrateurs, une écrivain public, une créatrice de livres objets, une relieur. Le tout observé par une exposition. Ce hangar de création est un lieu qui n'a pas un nom d'âge et qui s'ouvre au public grâce à la complicité de quelques femmes qui, chacune à leur façon, donnent une âme à ces murs fraîchement repeints.
Avant d'écouter l'interview prise en direct de ces ateliers, nous vous donnons quelques pistes. Pour juillet, on pourra assister à un stage aquarelle, d'art floral, des stages de tapisserie d'ameublement, des journées de couture et un stage de calligraphie. Dès la rentrée de septembre, il y aura en plus un atelier bien-être, des réunions lecture et tricot et de nouvelles activités en perspective. On trouve dans ce hangar la boutique de Béa qui rassemble des œuvres de créateurs tels que céramistes, bijoutiers et plus. Une occasion de trouver un cadeau hors du commun. Pour plus de renseignements, voir le blog tout attaché, le hangar des créateurs, blogspot.fr ou téléphoner au 06 10 91 90 88 à l'adresse 180 route de Crémieux à Tigneux.
En direct du hangar, hangar, qui ouvre ses portes aujourd'hui à Tigneux. Bonjour Marie-France, bonjour Béa. Quel est ce lieu et comment fonctionne-t-il? Je suis très curieuse.
Ah, merci Titane de vous intéresser au hangar. Effectivement, c'est un lieu unique et exceptionnel. C'est un lieu, physiquement c'est un hangar, mais c'est le lieu où l'art et l'artisanat est mis à portée de tous. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est fait pour partager, pour échanger autour de tous les métiers de la création. C'est un lieu où il existe des permanents qui sont là. À ce jour, 3 permanents sont présents, mais il est possible d'accueillir 5, voire plus de permanents. Et c'est un lieu où il y a des expositions, des ateliers, des stages, des activités qui sont proposées par le hangar et des activités qui peuvent être soumises au projet du hangar. Puisque le hangar, c'est un lieu participatif, collectif, dans lequel toute personne qui a un projet, qui veut s'investir sur une idée nouvelle, sur de la création, toute personne peut venir apporter son projet et peut avoir la parole au hangar s'il le souhaite, et si c'est en phase avec la philosophie du hangar. Sachant qu'il y a également des journées à thème tous les mois, et justement, en journée à thème, les rencontres autour du livre, c'est une journée qui va avoir lieu là, et cette journée permet de donner la parole à des gens qui travaillent autour du livre. De ce fait, il y a des métiers qui sont inconnus, et au lieu de faire un salon comme d'habitude, où tout le monde va s'asseoir dans son coin, rester et attendre le chaland qui passe, ici, ce n'est pas du tout le principe, comme toutes nos journées à thème, c'est d'échanger sur le savoir-faire et le savoir-être. C'est pour ça qu'il y aura des conférences, entre guillemets, hein, parce que l'humilité est plus présente au hangar que la prétention, ce n'est pas le lieu pour ça. Mais c'est comment partager, échanger, savoir s'apporter des valeurs, des talents et des compétences. Eh bien, le hangar, c'est cette philosophie-là. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'accueillir au hangar que des gens qui ont du talent et qui sont de belles personnalités.
Est-ce que le hangar est une coopérative, une association? Comment cela fonctionne? Et puis vous avez plusieurs ateliers. J'ai vu les coutures et puis d'autres, donc vous allez m'expliquer.
Oui, alors comment ça fonctionne? Donc tout à l'heure, je vous parlais des permanents. Donc aujourd'hui, il y a 3 permanents. Donc la boutique de Béa, il y a l'atelier Il va de l'avant, qui est un local de bien-être avec des massages, du coaching et de l'hypnose. Et un autre atelier local qui est un local de couture dont François s'occupe avec talent. Donc ça, c'est pour l'activité des permanents. Le hangar est ouvert tous les jours et sur rendez-vous selon les horaires des uns et des autres. Et puis, autour de ces activités-là, il y a la vie du hangar et l'association du hangar des créateurs qui existe et qui fait que le lieu prend vie avec toutes les activités dont je vous ai parlé tout à l'heure, stage, atelier, journée à thème, lecture, atelier, lecture partagée, et plein d'autres projets d'ailleurs qui sont encore en train de venir et qui germent dans nos esprits et en permanence, puisque et cette envie de partager.
J'imagine, j'ai une pièce de théâtre que je veux monter. Est-ce que je peux louer les lieux, par exemple?
Tout à fait. Il y a une pièce dédiée à tout ce qui peut être atelier, pièce de théâtre. Cette pièce, elle fait 80 mètres carrés de mémoire et elle est louable, dans tous les sens du terme d'ailleurs, pour toute personne qui souhaiterait faire une activité, quelle qu'elle soit, qui soit en phase toujours avec la création.
Et j'y verrais bien de la musique, par exemple, parce que le hangar, un espace magnifique qu'on peut utiliser de long en large, mais en hauteur aussi.
Alors exactement, ça fait partie des projets, de donner toujours la parole et de donner la possibilité à chacun de s'exprimer. C'est-à-dire que s'il y a des musiciens qui jouent tout seuls dans un coin ou qui ont envie de venir jouer, ou passer une heure ou deux heures, venir simplement dans le hangar et de jouer de leur instrument, eh bien, bienvenue au hangar.
Et avant de donner la parole à un de vos invités de cet après-midi, pouvons-nous rappeler l'adresse ou comment vous contacter? Adresse, email?
Alors, pour l'adresse, le hangar des créateurs, c'est 180 route de Crémieux, 38 230 Tigneux. C'est extrêmement proche de Crémieux, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Il y a un blog très très actif, d'ailleurs quand on fait Google, tout de suite le hangar des créateurs ressort. Et le blog, c'est lehangardescreateurs.blogspot.fr.
Merci beaucoup Marie-France et longue vie à cette hangar. C'est la première année, je pense, où vous êtes déjà dans la deuxième année d'activité et de création.
La première année n'est pas finie encore. Nous sommes toujours en première année.
Tout jeune. Alors on va d'autant mieux vous soutenir et vous pousser parce que on s'y sent bien. On s'y sent bien. Merci Marie-France.
Merci à vous Titane.
Thank you.
FM 97.1 avec notre invité Jean-Pierre Villaret. Nous venons d'entendre Pablo Casals au violoncelle dans Prélude et Allemande de la suite 1 en sol majeur de Johann Sebastian Bach de l'album Les 6 suites pour violoncelle, et ceci à la demande de Jean-Pierre.
Lors de cette journée autour du livre au Hang Ar, nous avons pu rencontrer Jean-Pierre Villaret, un des deux auteurs du livre Angle de vie, 25 regards éclairés sur la vie, coécrit avec Hélène Guyon aux éditions d'Angle. Fondée en 1926, la maison d'Angle présente des ouvrages en marge de la pensée unique, médecine douce, psychologie, développement personnel, ésotérisme, spiritualité, tradition. Forte de son excellente réputation, D'Angle propose un catalogue de 400 titres avec une quarantaine de nouveautés par an. Sa collection Santé naturelle, dirigée par Jean-Luc Darigol depuis 1976, est l'une des plus prestigieuses dans ce domaine. Elle développe depuis 2009 une nouvelle collection, Prospective Vivre Demain, dirigée par Marc Alévy. Pour commencer, écoutons comment se raconte Jean-Pierre Villaret.
J'ai sous les yeux Angle de vie. Angle de vie, 25 regards éclairés sur la vie, aux éditions d'Angle, par Jean-Pierre Villaret. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Villaret. Mais tout d'abord, qui êtes-vous et comment est né ce livre ?
Qui je suis, un illustre inconnu. Pas mal de gens connaissent mon histoire, en fait, notre histoire, en fait, tout simplement. Il se trouve qu'il y a, une vingtaine d'années, nous avons perdu un fils, en fait, et qui a subi un gros accident. Il a pris un panneau de basket sur la tête dans la cour d'un lycée. Beaucoup de gens s'en souviennent, parce que ça a quand même défrayé la chronique judiciaire pendant à peu près 4 ans. Mais peu de gens nous connaissent, donc voilà. On a eu besoin, j'ai eu besoin, moi, de traduire ce que j'avais envie d'exprimer aux autres à travers ce livre, c'est-à-dire parler de la vie, parce que je trouve que c'est un sujet qui n'est pas si réputé que ça, donc on n'en parle pas tant que ça, donc c'était important d'en parler.
Est-ce que c'était une colère au départ ? Une colère due à cet accident qui n'aurait pas dû être ?
Alors une colère, ça c'est certain, ça ne peut pas être autre chose. Colère d'ailleurs qui ne s'est jamais apaisée et qui, je ne pense, ne s'apaisera jamais. Mais colère aussi constructive, parce qu'il ne s'agit pas que ça soit une colère qui soit destructive. Donc elle a trouvé son canal pour une part dans mon métier. Je suis réalisateur de films, donc déjà canalisé pas mal de choses là-dedans. Et puis en vieillissant, effectivement, j'arrive à la soixantaine, donc on a envie de témoigner, de parler de choses importantes, d'un petit peu remplir sa vie d'autres choses que le travail, parce que le travail, ça prend beaucoup de temps, mais le reste peut en prendre aussi. Et j'ai eu envie de rencontrer des gens, voilà, j'ai eu envie de rencontrer des personnalités qui sont toutes pour moi des phares ou des exemples dans leur travail personnel, c'est-à-dire par exemple un Pierre Rabhi aujourd'hui sur l'écologie est quelqu'un d'important. Bertrand Piccard, aujourd'hui, qui fait voler son deuxième avion électrique, qui va faire le tour du monde, c'est quelqu'un, effectivement, qui est important. Voilà, c'est pas des people du tout. C'est vraiment des gens que j'ai choisis pour chacun leur spécificité dans des domaines bien différents. Sachant que je n'ai pas pu écrire de scénario, puisque, en fait, de ce projet sortira des films et un livre, et deux livres d'herbe. J'ai pas écrit de scénario, j'ai simplement écrit tout ce que j'avais envie de parler sur la vie. Et en fait, dans chaque case, j'essaye de mettre quelqu'un. Voilà. Une personnalité dans chaque case.
Est-ce que le suivi d'une série de documentaires est différent du livre lui-même ? Est-ce que l'approche est autre ?
Alors, l'approche de l'interview par elle-même, vous savez ce que c'est que d'interviewer, donc est la même. Maintenant, le condensé que l'on en fait n'est pas le même, puisque j'ai une amie qui m'a aidé, effectivement, qui s'appelle Hélène Guyon, qui m'a aidé à re-rédiger, effectivement, ces interviews, puisqu'on n'écrit pas pareil que ce que l'on parle. Il y avait une notion de mise en forme, quand même, des témoignages. Peut-être, de temps en temps, de tirer le positif et d'essayer d'éviter le négatif, parce que, bon, c'est vrai qu'il pouvait y avoir des choses qui étaient plus dense, et puis surtout de retranscrire la pensée des gens, ce qui n'est pas toujours exactement ce qu'ils peuvent dire, mais il y a des choses qui sont un peu cachées entre les lignes. Donc sans les improviser, de toute façon, ils ont tous relu leur texte, de toute façon, ils ont tous été visés par chacun des intervenants. Voilà, mais effectivement, on a réécrit les choses. Bon, voilà. Et va être tiré de là, en fait, dans l'idée, une série de films d'une minute, c'est les petits films qui passent à la fin du journal télévisé, des petits films d'une minute qui sont assez denses d'ailleurs, moi je pense que vous en écouterez quelques extraits, et après sûrement des films peut-être un peu plus longs, des interviews radio peut-être, je ne sais pas encore, enfin, y a une matière extraordinaire, puisque je crois que le plus court interview, c'est celui de Bertrand Piccard, fait 8 minutes, et il n'y a rien acheté, et le plus long, c'est celui de Marc Alévy, qui doit faire 55 minutes, donc voilà, c'est assez variable, en fait, selon les personnalités.
Vous avez choisi ces 25 personnalités parce que vous les connaissez, vous les connaissiez au départ, ou bien est-ce que vous avez pensé à différentes catégories, je veux dire, des catégories dans, dans les réactions qu'ils pourraient avoir ou dans leur vie déjà menée?
Alors, ça a été choisi selon un espèce de pitch que j'ai fait sur ce que j'avais envie de parler de la vie. Bon, j'avais par exemple envie de parler des interventions humanitaires. Pour ça, j'ai été chercher Bernard Kouchner. C'est quand on pense à cette personne-là, c'est cette personne-là qu'il fallait. Pour parler par contre des médias, par exemple, j'ai été chercher Patrick Poivre d'Arvor. C'est en plus le parrain de mon association, donc c'était important qu'il soit là. Voilà, dans chaque domaine, j'ai été chercher des personnes différentes. De proches d'ailleurs de votre région, Christine Janin, par exemple, qui elle s'occupe des enfants et a une association à Chamonix qui s'appelle Chacun son Everest, oui, tout à fait, en fait.
Elle suit les enfants qui sont cancéreux,
en fait, tout à fait. Et maintenant aussi, d'ailleurs, elle s'occupe des cancers du sein, d'ailleurs, des femmes. Elle fait la même chose avec les femmes. Voilà, donc à chacun, voilà, j'ai eu besoin de parler de tout ce qui était évolution de l'homme. J'ai été chercher Yves Coppens, qui est une référence en France. Bon. Alors, pour l'instant, on se limite à la France, pour des raisons très simples budgétaires. C'est vrai qu'on a envie aussi d'étendre ça au monde et qu'on cherche des partenaires et des parrains pour monter ce truc-là, parce que ça représente beaucoup de sous au fur et à mesure. Quoi. Voilà, au fur et à mesure, ça finit par faire beaucoup de sous.
Et cette association a été créée pour la sortie du livre.
Vivre Après a été créée un petit peu plus tôt. Elle a été créée parce que pendant quelques temps, j'ai dépensé les sous du foyer familial pour faire le projet, comme souvent. Et puis à un moment, on s'est aperçu que ça commençait à devenir un peu prohibitif. Donc il a fallu aller chercher des parrains. On a monté une association avec une dizaine de personnes au départ. Et des parrains entrepreneurs, en fait, d'entreprises qui nous ont donné effectivement des sous. La société Bayer, en l'occurrence, qui nous a bien aidés. Et puis d'autres qui ont mis de l'argent dans le projet. Et qui d'ailleurs s'intéressent, puisqu'il y a eu 1000 livres d'ailleurs qui sont partis chez Bayer et qui ont été gentiment offerts à tous les salariés de l'entreprise. C'est un projet qui comprend beaucoup de valeurs. Voilà, au travers de ces interviews sur la vie, il y a énormément de valeurs qui ressortent. Et comme les valeurs aujourd'hui ont un petit peu tendance à, je ne dirais pas à s'en aller, mais à se diluer dans une vie qui n'est pas simple, je pense que de temps en temps, rappeler quelques points de repère, ça peut être important.
FM 97.1, avec notre invité Jean-Pierre Villaret, nous avons choisi toujours à la suggestion de Jean-Pierre le boléro de Ravel avec Arpad Joe comme chef d'orchestre du London Symphony Orchestra. Vous écrivez, entre autres, « La vie est cruelle, carnassière. Mieux vaut en faire abstraction et savoir tourner la page malgré la peine et la douleur de la perte d'un être cher ou d'une traversée du désert. » Alors, est-ce que l'on tourne vraiment la page ou est-elle plutôt un tremplin à la vie, à la survie? Et les personnes qui sont témoins, certains, on le sait, mais ont passé soit le désert, soit une perte proche.
Alors, tous connaissent mon histoire, déjà. C'est très clair que, tous ont été... C'est une amie qui fait le lien avec ses personnalités. Tous connaissent mon histoire au départ, tous ont été effectivement émus par la chose parce qu'ils la connaissent. On a établi des rapports d'ailleurs qui sont assez, assez forts. Et est-ce que ça a calmé les choses ou pas? Je pense que, même si eux tous sont pas spécialement d'ailleurs des choses difficiles, il y en a certains, oui, pas tous, ils n'ont pas été choisis pour ça. J'ai pas choisi Stéphanie Fugain parce qu'elle a perdu sa fille. Il s'est trouvé que c'est une rencontre qui s'est faite. Où on s'est dit, après tout, c'est bien de se rencontrer. Voilà. Après, il y a eu d'autres personnes comme ça. Bon, Patrick Poivre d'Arvor, c'est un choix défini, puisque je lui ai demandé d'être le parrain de l'association. Ça, c'est très clair que c'était parfaitement défini pour effectivement ce qu'il est et ce qu'il a été. Et puis j'ai un autre principe, c'est que depuis que j'ai rencontré tous ces gens-là, je me suis mis dans l'idée qu'il fallait les rencontrer pour savoir ce qu'ils étaient. Je pense qu'on entend beaucoup de choses sur les personnalités. On lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de mal sur certains d'ailleurs, ou de bien. Je pense que quand on les connaît un peu mieux, on les discerne. Et je pense que les rapports qu'on a établis ensemble ont permis d'avoir des choses complètement différentes, des témoignages complètement différents. Et ça a été assez étonnant, c'est-à-dire qu'au départ, j'avais des gens qui étaient autour du projet avaient très peur que chacun vous dise « la vie c'est d'aller au bout de ses rêves, quoi, t'as la ligne » et puis que ça se termine là, les interviews. Mais pas du tout, parce que chacun prend à son compte le projet, prend à son compte ce mot, et quand je leur demande leur définition de la vie, bien évidemment, ils la voient à travers leur métier, leur savoir-faire, ce qu'ils font tous les jours.
Et j'ai eu l'occasion de parcourir le livre, et c'est vrai qu'il y a toute une richesse et des personnalités différentes qui se rejoignent dans certains témoignages, mais je pense que c'est un livre que l'on a comme un livre de chevet. Et comme vous avez des poèmes que vous lisez avant de vous endormir, ici également, on vit dans une période très troublée, très, très difficile, on ne sait plus bien où la société va, qui on est, et en lisant les témoignages et les réflexions des uns et des autres, on se dit que tout n'est pas perdu, qu'effectivement, on doit continuer à croire dans l'homme.
Ce que dit Pierre Rabhi, par exemple, de toute façon, la Terre continuera quoi qu'il arrive, donc quoi qu'il arrive, le monde continuera à tourner, la vie sera là. Après, sous différentes formes, on s'adapte pas. Enfin, bon, ça c'est et chacun a voulu exprimer un petit peu sa vision et son futur, voilà. Et puis, moi, j'avais besoin aussi de on dit souvent d'où vient, où vais-je et dans quelle étagère, hein. C'est-à-dire, bon, voilà, j'avais besoin d'établir un peu cette continuité du premier, je veux dire tout simple. Du premier être qui est venu sur la Terre, hein, qui sont ces petites bestioles qui se sont reproduites, et une des personnes s'appelle Marca Lévy qui effectivement est dans le livre, tout simplement dit, c'est que le jour où cette petite chose-là a décidé de son destin, ça c'est le jour où la vie est née. Bon voilà, ça c'est un exemple. Après, il y a ce que sera la Terre demain, c'est Pierre Rabhi. Il y a aussi beaucoup de choses que j'ai voulu traduire, par exemple, qui est... cette montée de l'islam aujourd'hui, voilà ce côté-là. Vous êtes à la page ouverte de Malek Chebel, bon, qui est un homme qui a une vision de l'islam, effectivement, positive, théorique dans un sens et théologique, mais dans un autre sens très ouverte sur le monde. Et l'islam est très ouvert sur le monde, hein, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, malheureusement, et l'image que certains en donnent. Il y a des gens qui ont témoigné, j'avais besoin, bien évidemment, de parler d'histoire de France ou parler d'histoire du monde. Simone Veil nous parle effectivement de son expérience des camps, et c'était important que ça soit dedans. J'ai eu besoin d'aller voir un astrophysicien pour définir effectivement cette taille, les tailles de l'univers, parce que c'est des choses que l'on ne mémorise pas bien. Voilà, plein de choses comme ça qui sont très différentes les unes des autres, quoi. Et on continue, hein. On en a mis 25 dans le premier livre, il en sortira un autre dans 2 ans, j'espère, avec 25 autres suivants. Alors il y a des gens connus, il y a des gens un peu moins connus, il y a des gens très connus du grand public, et puis il y a des gens qui sont un peu moins connus, on essaye d'équilibrer les choses. Il y a un monsieur qui s'appelle Alexandre Manès à l'intérieur, par exemple, qui est directeur du Cirque Tzigane de Paris, qui est un homme absolument extraordinaire, qui est un robe, et qui est le patron d'un cirque, avec tout ce que ça peut représenter. Le Cirque Tzigane, c'est la famille, c'est les enfants qui jouent, c'est le petit grand enfant qui a 6 ans qui fait un numéro, c'est ça aussi.
Ces témoignages permettent peut-être d'enlever une certaine haine due à la méconnaissance. On parle des tziganes, ces voyageurs, là, Malek Chebel, si on le lit, on comprend un peu mieux, on se dit oui, cette religion vaut une autre, si on la prend telle qu'elle. J'ai trouvé votre livre et je suis heureuse de savoir que vous allez continuer. Et puis là aussi, presque chaque fois, vous demandez l'enfant. L'enfant, que diriez-vous à un enfant ou...
C'est-à-dire qu'il y a un projet d'un futur livre en fait, sur les enfants, en fait, parce que je voudrais recompiler toutes les... Parce que chaque fois que je les interviewe, en fait, je leur pose inévitablement la question à la fin, c'est quelle est votre définition de la vie ? Et en général, pour certains, ça devient assez complexe et compliqué. Et j'ai envie de la simplifier, donc je leur dis, voilà, maintenant, pour un enfant de 7, 8 ans, 10 ans, qu'est-ce que vous diriez ? Donc là, en général, ils vont un petit peu plus loin, ils essayent de faire quelque chose de plus simple, donc ils le font très bien. Et j'ai envie, avec ces définitions d'enfants, en fait, de faire travailler des classes ou des enfants sur des dessins et de faire de quelque chose qui soit mixé entre les dessins d'enfants et ces définitions aussi. Donc je leur pose systématiquement la question aussi, maintenant, un enfant, qu'est-ce que vous lui diriez ? Et voilà quoi.
Ce sont les projets qui font vivre et qui font continuer. Et si vous, on vous demande quelle est votre définition de la vie, vous qui l'avez posée à tant de personnes, on va faire l'arroseur arrosé.
L'arroseur arrosé, celle-là, on l'a déjà posée quelques fois. Si
oui, j'imagine.
Ce qui me paraît important, c'est le témoignage. Voilà, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il est important de témoigner de ce que l'on a fait, de ce que l'on a vécu. Et d'ailleurs, tous ces gens-là témoignent en final, et c'est ça qui m'intéresse, c'est le témoignage et le partage. Donc je dirais que la vie, pour moi, c'est effectivement principalement partager quoi, avec les autres.
Oui, j'ai retenu effectivement le partage. C'est pour ça qu'on vous trouve au hangar, parce que c'est un peu la même philosophie. Mais vous avez, je trouve, sorti la quintessence sans tomber dans le voyeurisme ou le larmoiement. Vous montrez un autre regard de la vie, pas nécessaire de courir à du 160 km à l'heure. Il faut, dans la vitesse, ne pas passer à côté de l'essentiel. Je crois que c'est un peu ce que j'ai retenu, et que pour chacun, l'essentiel peut être à chacun sa place.
Oui, complètement, oui. Je crois qu'il faut que chacun trouve... Bon, déjà que chacun trouve sa place, ça c'est déjà le premier problème. Ensuite, après, que chacun sache l'exprimer, le pourquoi il est là. Ça, c'est important aussi pour soi-même. Et puis après, effectivement, le partage avec les autres. Ouais, c'est tout simple. Je veux dire, Bertrand Piccard dit une chose qui est très simple, c'est que tous les moments entre sa naissance et sa mort doivent être absolument pleins au maximum. Voilà. Faisons le maximum de tous ces moments. Moi, j'ai découvert avec la mort de mon fils que ça pouvait s'arrêter très très vite. Donc j'ai décidé ce jour-là de vivre au maximum de tout ce que je pouvais vivre. Ça, c'est important. Vivre.
C'est important. C'est le regard aussi. C'est vivre. Et ce que vous avez dit, c'est regarder les autres et partager. Parce que si on est là et on part seul et on fonce sans but bien précis...
Guy Savoy dans le livre. Guy Savoy dans le livre dit tout simplement qu'il faut effectivement avoir les yeux ouverts, regarder partout autour de soi. Et que déjà, en faisant ça, il y a déjà beaucoup de choses qui sont que vous prenez en fait en vous. Quoi. Déjà, ouvrez les yeux, découvrez. Il y a du beau partout, il y a des choses intéressantes partout. Moi, je ne connaissais pas du tout Crémieux. Hier soir, j'ai trouvé une halle magnifique que je ne connaissais absolument pas. Ça donne envie de revenir, ça donne envie de... Voilà, je pense qu'il y a une notion de découverte qu'on peut faire tout à fait à côté de chez soi. Il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres. Et je pense qu'il est toujours important aussi de parler avec les autres. Important aussi.
Angle de vie, et là aussi par exemple j'ai retrouvé la façon d'aborder l'handicap, parce qu'on est tous, parce qu'on parle des yeux, Comment réagit-on? Et là, vous avez un témoignage. Et bien voilà, ça donne de plus.
Filippo Zoli Borgo, c'est un homme extraordinaire.
Oui.
Je l'ai rencontré à Essaouira, chez lui, parce qu'il vit là-bas pour des raisons tout simplement de santé, parce que l'atmosphère française et parisienne avec la pluie, c'est pas l'idéal pour ses rhumatismes. Filippo Zoli Borgo, c'est le monsieur qui a généré le film Intouchable, puisque c'est son histoire en fait qui a été mise en scène, même s'il y a quelques petites choses romancées, mais le 80%, 85% sont sa véritable histoire. Bon, c'est un homme, quand vous le rencontrez, il est lumineux, voilà. C'est-à-dire, on s'est arrêté au milieu de l'interview, on a pleuré un petit coup tous les deux, puis on est reparti. Voilà, parce que je lui ai posé la question, à un moment je lui ai posé la question, il y a des choses qu'il ne s'oublie pas, parce qu'il a perdu son épouse, enfin bon, voilà. Et on a eu un petit blanc, effectivement, de 3 minutes, et puis on est reparti après, mais bon. C'est toujours des choses très fortes. Hein. Voilà. C'est quelqu'un avec qui je garde des liens importants. Et j'ai amené un petit témoignage à lui là, tout à l'heure. Et voilà, c'est quelqu'un qui est d'un naturel et d'une nature absolument extraordinaire.
Alors moi, je vais en citer deux avant de se saluer, puis d'avoir les témoignages. Mais il y a Alain Baraton, qui, lui, veut faire vivre l'arbre, ne pas le couper. Puis bon, on est en plein dedans maintenant. Il y a Cohn-Bendit aussi, avec sa double nationalité, la France, l'Allemagne. Enfin, on est en plein dans l'actualité.
Il y en a beaucoup qui sont dans l'actualité, d'ailleurs.
Oui. Qui vont y rester, parce que par leur profession, déjà.
Oui, puis par leur aura, et puis par... je dirais tout simplement leur engagement aussi à chacun. Hein. C'est des gens qui sont tous très engagés, hein. Très engagés dans la vie. Vous prenez Jean-Louis Etienne, qui est un homme remarquable, d'une simplicité, mais absolument... Enfin, il ne sera pas là aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un à qui vous pouvez dire, voilà, moi je veux dire, j'ai fait j'aime pas le mot conférence, j'ai un témoignage au Théâtre du Palais Royal le 17 octobre dernier. Il se trouve qu'un des invités m'a planté tout simplement à 14h, je l'ai appelé à 14h30, je veux dire, à 18h, il était là, quoi, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est très simple, et chaque fois qu'il peut parler de ce qu'il a envie de parler, ben, il vient, quoi, et il fait.
Angle de vie, 25 regards éclairés sur la vie, à savoir qu'il y aura une suite, Jean-Pierre Villaret, que l'on peut, cet après-midi, voir, écouter. Et je vous remercie infiniment pour ces témoignages qui vont nous aider tous à se poser aussi les bonnes questions et ne pas larmoyer, mais être positif. Je crois que par ce témoignage, c'est ce qui ressort aussi de votre livre.
Ce sont pas des, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas des leçons, c'est des, oui, c'est des choses à digérer, voilà.
Oui. C'est pour ça qu'il faut lire et relire.
Voilà, c'est pas des leçons, en aucune manière.
Un livre de chevet, c'est ça. Voilà. Est-ce que j'ai bien compris? Qu'est-ce que moi je dirais? On se pose la question. Je n'ai pas encore bien ce qu'il faut répondre. Donc il est temps que j'y pense. Merci beaucoup, Jean-Pierre Villaret.
Merci.
Au plaisir. Bonne continuation surtout.
Mistreat you, simplify you, classify you, classify you, what I do is baby be friends with you. Not looking to fight with you. Frighten you or I tighten you. Bring you down or drain you down. Chain you down or bring you down. Oh, I really wanna do is baby be friends with you. Black you up, shock or a knock, or lock you up. Analyze you, consider, rise you, finalize your advertising. Or a chase you, trick or a trace you, or disgrace you, or displace you, or define you, or confine you. All I really wanna do is baby be friends with you. Make your spin, or do you win? Or select you, or eject you, or inspect you, or reject you. All I really wanna do is baby be friends with you. Take you out. I'm looking for you to feel like me, see like me, or be like me. All I really wanna do, all I really wanna do, is baby be friends with you, is baby be friends with you.
Couleur FM 97.1 avec notre invité Jean-Pierre Villaret. Et pour finir, nous avons entendu All Riley Want to Do de l'album Tribute to Bob Dylan, interprété par des musiciens italiens de AM.
Doué AM.
Dont mon ami Mauro Bertagnin à la guitare fait partie. Je le salue. Jean-Pierre Villaret, je n'ai pas trouvé le disque de Bob Dylan, d'où ce clin d'œil.
Nous pouvons écouter le passage de quelques témoins de vie que l'on peut retrouver dans le livre « Angle de vie ». Commençons par Patrick Poivre d'Avor avec sa soif du partage, puisqu'il est le parrain de l'association Vive Après, créée, on le rappelle, lorsque Myriam et Jean-Pierre Villaret perdent leur fils en 91 suite à un accident dans la cour de son lycée. Cette rencontre avec Patrick Poivre d'Avor n'était certes pas la première, mais elle s'accompagnait d'une émotion très particulière car je voulais parler avec lui de ce que nous partageons au plus profond de nos cœurs, la perte d'un enfant. Les toutes premières questions se sont adressées aux journalistes, les suivantes à l'écrivain passionné de littérature, et très vite est venue la question qui me trottait en tête. J'avais passé la nuit précédente à relire « Lettre à l'absente ». Comment pouvaient résonner en lui ces mots écrits par sa fille « Je n'aime pas la vie ». Les larmes retenues dans ses yeux et sa réponse « J'ai toujours ce petit mot sur moi » m'ont suffi pour savoir que nous étions sur la même fréquence, encombrés du même vide, celui qui vous reste à jamais gravé dans le cœur.
La vie, elle est ce que vous décidez d'en faire. C'est exactement l'image de l'oiseau. On en fait ce qu'on en veut de la vie. Si on a envie de voler, on a le droit de le faire. On a même l'obligation de faire. Il m'est arrivé très souvent d'être très ému par ce que j'annonçais. Peut-être parfois même un peu trop. Bon, j'essayais de ne pas le montrer, mais évidemment. Et alors après, on relativise beaucoup de choses qui peuvent vous arriver dans votre propre vie au regard de tout ce qu'on voit et de toutes les catastrophes qu'on a annoncées. Et pourtant, Dieu sait si on a envie de râler. Très souvent. Et même pire que ça. De hurler. L'injustice majeure, c'est l'injustice de la naissance et donc ça touche essentiellement l'enfant. Ce n'est pas juste que deux enfants qui ont la même constitution ne puissent pas avoir la même chance et ça arrive encore aujourd'hui en France et d'une manière dramatique selon qu'on regarde ce qui se passe hors de nos frontières.
Continuons avec le témoignage d'une femme, Stéphanie Fugain, où la vie réapprise. Un contact établi par notre programmatrice, une relecture d'un certain Tout le monde en parle, où elle présentait le combat mené par l'association montée après la mort de sa fille Laurette, et l'envie de la rencontrer était là, pressante. En préparant mes questions, je pensais à notre terrible point commun, et j'avais hâte de savoir si nos survies avaient pris les mêmes chemins de traverse. Le 29 avril 2011, j'arrivais dans une maison calme, au cœur de la vallée de Chevreuse. Quelques minutes de partage dans sa cuisine, pendant que l'équipe réglait les lumières. En commençant l'interview, je lui disais en m'excusant, les questions risquent d'être lourdes. Un sourire et un regard me firent comprendre qu'elle était prête.
C'est un très très beau cadeau qu'on nous fait. Il faut qu'on en prenne soin. Il faut qu'on la distille et qu'on la partage avec d'autres. Qu'on donne envie à d'autres de la vivre, de l'accepter, de se dire que c'est beau la vie. Et au jour d'aujourd'hui, même après toutes ces épreuves, quand des gens me disent « c'est de la merde, ça m'intéresse pas, c'est dur, etc. » Je dis oui, effectivement, c'est dur, c'est difficile. Mais je suis sûre que derrière tout ça, derrière cet emballage, il y a quelque chose de joli. Parce que c'est nous qui la construisons, cette vie. C'est nous, j'en suis persuadée. Et que toutes ces épreuves qui sont là pour nous construire la vie, justement, elles doivent nous obliger, nous permettre d'avancer avec et de la sublimer malgré tout ça. Alors, c'est un bien grand mot parce que c'est pas simple, mais c'est aussi le sens que l'on doit donner à la vie. Et ce sens, c'est nous qui le portons. Mais je crois que j'ai bien cerné tout ça. Je le savais pas avant. Je ne savais pas.
Et Bertrand Picard, ou la curiosité constructive. Certaines rencontres font date. Celle que j'ai vécue avec le s'aventurier, Bertrand Picard en fait partie. Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec cet homme aux multiples visages, médecin psychiatre, aéronaute et entrepreneur, à l'âme aussi grande que le monde qu'il découvre inlassablement. Après 700 km de voiture, j'arrivais à Payerne, sur une base aérienne de l'armée suisse. Devant moi, un immense hangar et cet oiseau extraordinaire, le Solar Impulse. Son temps était compté, mais les 7 minutes qu'il m'a consacrées étaient intenses, pleines et magiques. Parler de la vie à assemblée lui plaire. D'ordinaire, les questions tournent plutôt autour de son avion et de son projet. Face à moi, un regard hors du commun sur les gens, sur la vie, et une curiosité infinie. Il s'est même étonné de notre système de tournage en deux plans, appareil photo et caméra sur un même pied. Nous avons échangé en technicien. Et puis, il m'a parlé de lui, de ses aspirations, de ce qu'il met en place pour les réaliser. Quelques mois plus tard, j'ai eu le bonheur de suivre l'une de ses conférences d'1h30 et de m'apercevoir qu'il avait su tout me dire en 7 minutes.
Les rencontres dans la vie sont fondamentales parce que tout seul, on n'apprend rien. On apprend grâce aux autres, on apprend grâce aux confrontations à certaines situations de la vie. Et c'est tout ça ensemble qui forme l'enseignement fabuleux qui nous permet d'avancer. Aujourd'hui, on parle beaucoup trop des problèmes, on parle trop de pessimisme, on inquiète les gens, on les déprime. Et ce qu'il faut maintenant, c'est amener de l'espoir, amener des solutions, amener du rêve, amener de l'enthousiasme. Parce que sans curiosité, on n'essaye rien de nouveau. Ensuite, il y a la persévérance, parce que sans persévérance, ce qu'on réussit ne va jamais réussir. Et puis ensuite, il y a le respect, parce que sans le respect, nos succès ne servent à rien. Et c'est clair que si un avion est capable de faire le tour du monde sans carburant, plus personne ensuite ne pourra dire que c'est impossible de le faire pour des voitures, pour des airs conditionnés, des chauffages, des ordinateurs, etc. Ce qui nous tue dans la vie, c'est les certitudes et les habitudes. Ce qui nous fait vivre, c'est la curiosité, c'est la remise en question, c'est le doute. Et c'est ça qui nous permet d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit être capable de faire.
Simone Veil ou la générosité courageuse. Quels adjectifs attribuer à cette femme d'exception, dont la trajectoire de vie est aussi déterminée que son regard, aussi lumineuse que le bleu de ses yeux. Je dois l'avouer, j'étais intimidée. J'avais hésité à lui poser des questions sur les camps et la Shoah, mais en fait, nous avons essentiellement parlé de cela. Peut-être cette période était-elle celle qui reste en perspective quand on lui parle de la vie. Je l'ai questionné sur son rôle en tant que ministre. J'ai abordé la loi sur l'avortement qui lui a demandé tant de courage. Sa réponse était toujours la même. Vous savez, j'étais là par hasard, il fallait quelqu'un et je me trouvais là. Cette modestie m'a surpris et touchée. Aucune fierté, pas le moindre orgueil du devoir accompli. Juste un regard qui s'échappe, les souvenirs qui surgissent, ceux qui en sont revenus et ceux qui n'en reviendront jamais. Son père, son frère, sa mère. Elle venait juste d'achever l'écriture de son livre. Une vie, sa vie.
La vie pour moi, elle est devenue ce qui reste lorsqu'on a touché vraiment le fond. Et donc on vit, on prend la vie comme elle est. On prend la vie comme elle est, mais en arrière-plan. Et je crois que c'est cet arrière-plan qui est important. C'est la déportation qui reste. C'est d'abord l'amitié qu'on a avec ceux avec lesquels on a été au camp, qui est une amitié très particulière. Je crois que les gens sont toujours étonnés de nous voir comme ça, parce que c'est d'essayer de comprendre un certain nombre de choses, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on en arrive là, que même dans des moments effroyables, où on pense qu'on ne survivra pas, il reste d'abord une envie de vivre. Et sûrement ceux qui ont survécu, c'était que cette envie était forte, mais aussi entre nous, beaucoup de solidarité.
Bernard Kouchner ou le risque assumé. Dans la vie, il y a quelques sujets incontournables. Le droit d'ingérence en est un pour moi. Alors interviewer son initiateur m'apparaissait comme une évidence. Loin des préjugés, je m'en tenais à mon propre sentiment, avec seulement une immense impatience à l'idée de cette rencontre. Médecins sans frontières a toujours été pour moi une référence, à tel point qu'à la mort de Stéphane, notre fils, les dons faits par tous nos amis sont partis avec les French Doctors pour former des médecins urgentistes au Cambodge. Il venait de quitter son poste de ministre, ce qui a un peu simplifié notre approche. Et nous voilà le 11 mai 2011 devant les grilles du ministère des Affaires étrangères, au lieu de la République. Avec sa secrétaire, il terminait ses cartons avant de partir vers d'autres rives. Un bureau presque vide, des silences impressionnants et un homme osant rire de choses sérieuses, voire dramatiques, profond sans être ennuyeux, distant et accessible en même temps. Un homme fort de ses convictions, avec un regard posé sans fleurs ni couronne sur la vie dans le monde d'aujourd'hui.
La vie, c'est simple. Ça se défend contre la pathologie, contre l'extrémisme qui endommage, qui brutalise, qui blesse. J'ai voulu sûrement être médecin pour toutes ces raisons, pour sauver la vie, pour ne pas l'endommager plus, pour peut-être la garantir un peu plus. Le droit d'ingérence, qui avait l'air brutal, c'était une intrusion médicale. Il fallait protéger les gens contre eux-mêmes, contre leur gouvernement. Après, le droit d'ingérence s'appelant différemment, la responsabilité de protéger, c'était beaucoup plus beau, c'était beaucoup plus politique. C'est pas seulement biologique, la vie. Il faudrait y mettre plus de morale, plus de conviction née d'une expérience des autres, de la planète, de respect des autres, finalement. Lorsque c'est respectable.
Un dernier témoignage avec Alexandre Romanès ou La liberté indignée. Tout commence avec le 13h de France 2, un samedi, et un sujet sur le cirque Tzigane d'Alexandre Romanès. Son discours sur la vie, les enfants et l'éducation déclenche mon envie de l'interviewer. Un mail sur son site et le dimanche soir, et le lendemain midi, un appel sur mon portable, c'était lui. Avec une grande simplicité, il m'a invité à assister au spectacle du samedi suivant. À mon arrivée, comme je ne voulais pas le déranger, j'ai glissé deux mots à sa femme Delia sur la raison de ma présence. Et puis le spectacle a commencé, magique, unique, une cure de bonheur, une merveille d'authenticité. Je savais que ce serait une vraie rencontre. Pour faire les images et les photos d'illustration, j'ai vu le spectacle trois fois, sans jamais éprouver la moindre lassitude. Trois semaines plus tard, l'interview a eu lieu un matin, sous le chapiteau, entre ces enfants qui s'entraînaient, les voitures qui vrombissaient à proximité sur le périphérique, les cris de la cour de récré dans l'école d'à côté et son portable qui s'est mis à sonner.
J'ai le sentiment que ma vie est hors du système, oui, mais c'est un combat, c'est pas facile. Dieu, c'est la profondeur des choses, la profondeur des gens et des choses. On le crée, Dieu, et je crois en Dieu. Les tribus gitanes et tziganes vont disparaître, puisque les cultures minoritaires, on le sait, vont disparaître une à une. Et on va disparaître. C'est dommage, il y avait aussi des belles choses dans notre culture, mais voilà, le monde est fait comme ça. L'humain a de l'importance. Il y a des gens qui ne font pas d'enfants. C'est un peu comme les enfants qui n'ont pas de parents. On peut vivre sans avoir eu de parents, mais on se prive de beaucoup de choses. Et quand on n'a pas d'enfants, on peut vivre aussi sans enfants, mais on se prive de beaucoup de choses aussi. Il faut essayer de se mettre à l'écart de tout ça, parce que à l'écart de ça aussi.
Nous voici arrivés à la fin de nos émissions de la saison. En attendant de vous retrouver à la rentrée de septembre, Laurent vous passera un choix de rediffusion. Merci Dan, merci Dom, merci Laurent.
Merci Titane.
Et en septembre, passez un bel été.
Bye bye.
Au revoir.